un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Dans un film sorti en 2006 et intitulé « Pork and Milk », la réalisatrice, autrice et plasticienne Valérie Mragen rencontre une dizaine de personnes qui se sont échappées de la communauté juive ultra-orthodoxe dans laquelle ils et elles ont grandi. Chacun y raconte assez simplement, face caméra, ce moment douloureux, la crainte d'être sorti du rang, la peur de ce qui va leur arriver, du châtiment divin aussi. Ce sont surtout les premières fois qui les marquent, la première fois qu'ils vont au cinéma, qu'ils allument une lampe pendant le Shabbat, la première fois qu'ils enfreignent la règle. « J'étais sûre que Dieu lui-même allait descendre et m'arracher le cœur », dit l'un. « J'attendais que l'éclair me foudroie », raconte un autre. Elle pensait que ses doigts s'enflammeraient et que Dieu viendrait lui régler son compte, explique Valérie Mragen dans un petit livre qui accompagne le film. Ses sortants, auto-exclus, disent aussi ce qui leur manque et ce qu'ils regrettent maintenant qu'ils sont dans la vie civile. Les fêtes, les rites, les repas, être ensemble, ce qui fait la force de la communauté. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on parle de ça. De ce moment où on quitte la religion ou bien l'école religieuse, soit par choix, soit parce qu'on en est exclu. Ce sont deux histoires aussi destinées à nous décentrer, à prendre un peu de distance avec le lycée Stanislas par exemple, à nous regarder depuis l'étranger et à changer de lunettes pendant une demi-heure. Des histoires qui parlent d'enseignement et de religion, d'école religieuse et de communauté baptiste, d'un pays en guerre avec des catholiques et des musulmans. Ça s'appelait au début « Vie rééducatée », mais au fond, il s'agit peut-être de notre rapport à Dieu, pour ceux qui en ont un, de Dieu, ou ceux qui l'appellent comme ça. Tout de suite, Darina et Joseph, une Libanaise et un Américain par Stéphanie Thomas.
Je suis Darina Al-Joundi, française d'origine syro-libanaise. Je suis née le 25 février 1968 à Beyrouth. C'est quelques années avant la guerre. Alors, je viens d'une famille très, comment dirais-je, un peu surréaliste. On est des origines très différentes, mais tous athées. Au Liban, on n'a pas le droit de ne pas dire notre religion, et même, il faut dire chrétien catho, chrétien orthodoxe, chrétien protestant, il faut l'écrire sur la carte d'identité. Donc, même si vous ne l'êtes pas, vous êtes obligé de vous déclarer comme votre père. Exactement. On suit le père avec la religion. Donc, tous les Libanais, sur nos papiers, on a notre religion écrite, noir sur blanc, mais on peut être athée, mais juste c'est écrit, c'est obligatoire par la loi. Mon père est d'origine ismaélite. Ismaélite, c'est ceux qui suivent l'agacan. C'est plus une philosophie, une façon de vivre, c'est une façon de penser, très philosophique. Mais c'est un athée. Et ma mère, elle est d'origine chiite. Mais elle l'est pas du tout. Même mon grand-père, il buvait. Donc, on n'est pas du tout une famille ni conservatrice, ni attachée à la religion. Mon père, pour moi, m'a appris la liberté absolue dès que j'étais gamine. Déjà par le fait d'avoir la liberté de croire ou de ne pas croire. Et si croire, croire à ce que je veux et ce que je choisis. Mon père adorait le Christ, réellement. Il le comparait à Guevara. Pour lui, c'était un révolutionnaire. C'était un rêveur, le Christ. Et il adorait cette histoire. Il adorait tout ce qui est autour. On en parlait tout le temps. Il avait des icônes de la Vierge partout dans la maison. On allait pour des messes chez les Grecs orthodoxes, l'église orientale, parce que les messes sont très différentes. C'est très, très beau. C'est plus long, mais c'est très beau. Et donc, j'ai été élevée dans cette ambiance-là. Une ambiance de conte et d'un rêve. C'est comme si cet homme peut libérer et apporter la justice aux pauvres. Donc c'était beau comme idée. En fait, l'école publique presque n'existe pas au Liban. C'est pour cela qu'on est tous dans des écoles privées françaises. Et c'était surtout les frères ou les bonnes sœurs, quoi. Et le catéchisme, pour moi, c'était les meilleurs moments. Parce que j'écoutais les histoires comme si on me racontait un vrai conte. Et je pleurais pour les histoires. Ah, mais une gamine qui rentrait dedans pour une pièce de théâtre, pour moi. Donc, j'avais ce rapport. Et quand je rentrais dans l'église, j'adorais les odeurs, j'adorais les lumières, les sons, j'ai adoré l'histoire racontée du Christ. Mais pas du tout l'histoire de Dieu. Je crois que depuis que j'étais gamine, j'ai pas cru dans cette histoire-là. D'avoir cette façon de penser, même en étant gamine, et de vivre dans un monde, pas seulement dans un pays, qui se déchire autour de la religion. C'est comme être un ovni, c'est un extraterrestre. Tu es une martienne, tu n'appartiens pas. Parce qu'il faut qu'on appartienne à quelque chose. J'ai toujours été une petite gamine un peu diabolique, qui faisait tout et n'importe quoi, qui faisait des paris avec les gamins, je relevais les jupes des bonnes sœurs. Et donc, on m'a toujours puni, on me mettait dans des chambres noires, et on me mettait du yaourt sur les oreilles en me disant que les rats vont venir me manger les oreilles. Et en plus, dans ces écoles de bonnes sœurs françaises, on n'avait pas le droit de parler arabe. La famille de mon père, son oncle était le président, comme ici, de l'Académie française. Pareil, mais pour la langue arabe. Donc, mon père et tous ses frères sont des auteurs, des poètes, des gens qui ont toujours travaillé la langue. Et dans la maison, on adore la langue arabe. Et c'est moi la langue que je maîtrise le mieux. C'est ma langue préférée pour m'exprimer. Et donc, m'interdire de parler arabe, c'était choquant. Même dans la cour, c'était interdit. On avait un truc qu'on appelle le signal, c'était un bout de bois. Et si tu l'as dans la poche, ça veut dire que tu as parlé arabe et tu vas être puni. Celui qui l'a eu, il doit le garder et il doit passer tout son temps dans la cour à écouter qui parle arabe pour le lui mettre, sinon il le garde lui et il va être puni encore une fois. Avant de monter en classe, les bonnes sœurs nous fouillaient pour voir qui a le signal. Celui qui a le signal, il reste l'après-midi en classe à écrire sur le tableau. Je ne parlerai pas un mot d'arabe, je ne parlerai pas un mot d'arabe, je ne parlerai pas un mot comme ça. Moi, j'avais la plupart du temps, j'avais le signal, parce que je voulais parler arabe dans la cour, ils n'avaient pas le droit de m'interdire. Eh ben non, ils avaient le droit. Elles avaient le droit. Quand la guerre au Liban a éclaté, on était encore à l'école Sainte-Famille française d'une région qui s'appelle Babda. Sur les hauteurs de Beyrouth, tout d'un coup, ils ont décidé que, comme ils sont en train de s'entretuer entre eux, ils ont pris la décision de séparer les élèves chrétiennes des musulmanes pour les cours de catéchisme. Donc, les musulmans n'avaient plus le droit d'y aller. Et donc, à ce moment-là, la bonne sœur rentre, et moi, je me préparais pour aller à mon cours de catéchisme, comme d'hab. On était 3 musulmanes dans leur liste. Et donc, elle me dit non. Vous pouvez pas aller. Moi, je dis, mais je comprenais pas. Mais pourquoi? Et elle me dit, parce que tu es musulmane. Quoi? Mais c'est pas vrai. Moi, je veux aller à mon catéchisme. Et je commence à pleurer parce que je voulais absolument y aller. Et là, elle a vraiment un moment de tendresse pour moi parce qu'elle voit que cette petite gamine qui hurle de douleur pour aller au catéchisme, elle se dit, ma chérie, tu aimes tellement le Christ. Oui, ben. En arabe, c'était une autre histoire, mais il fallait trouver un truc semblable en français. Je dis que c'est comme des contes, mais j'ai cité un conte un peu plus érotique. Et ça l'a choquée, et elle m'a presque frappée, et elle est partie. Et moi, pour me venger, j'ai fait pipi dans le bénitier. Dans l'église de l'école, pour me venger. En fait, moi, je priais pas, mais on avait une icône à la maison et j'avais un tableau dans ma chambre, en dessous de ma tête, d'une petite fille qui prie avec une lumière comme ça, c'est très... Et j'adorais cette photo. Et je me mettais comme ça dans l'église avec la même posture de la photo et je regardais les lumières et j'étais heureuse. Puis, on a été obligés de suivre papa à Bagdad, on arrive à Bagdad et mon père nous trouve le moyen pour nous mettre à l'école des bonnes sœurs à Bagdad. Pareil, il y avait l'église, il y avait le catéchisme, toujours. Je suis rentré au Liban après Bagdad. On était au Carmel Saint-Joseph. C'était le Parti communiste libanais qui était en charge de cette école. Même les bonnes sœurs étaient de gauche. Et on allait beaucoup dans les manifs avec les bonnes sœurs. C'est une ambiance assez spéciale, cette école. C'était une parenthèse dans cette ambiance de guerre. C'est des bonnes sœurs qui m'ont marqué. Parce qu'elles n'avaient pas un rapport très, entre guillemets, religieux. C'était des femmes très ouvertes. Il y avait une qui était à vélo, Beyrouth, pendant la guerre. Elle sortait à Beyrouth Est, c'était pas la Beyrouth du côté chrétien, c'était Beyrouth qui était plus musulman, avec ce qu'on appelle la gauche libanaise qui habite. Il y avait des chrétiens, bien sûr, mais c'était plus une majorité musulmane. Aucun problème. Personne ne les a jamais touchées, ces bonnes sœurs. Elles avaient fait des cours d'histoire de l'art, de débats artistiques autour des sujets qui nous intéressent. Pendant la guerre, elles nous emmenaient au théâtre, à des expos. On discutait de religion, de musique. Elles nous mettaient de tableaux de Dali, de Picasso pendant une heure et après on devait discuter. Et c'est une ouverture d'esprit intellectuelle. C'était vraiment une oasis, cette école, avec ses bonnes sœurs. Mais vraiment, j'ai rarement une telle liberté de penser qu'avec mon père et ses bonnes sœurs. Alors que c'était des bonnes sœurs de gauche, c'est comme ça qu'on les appelait. Je reste toujours un beau conte. Même quand j'allais tourner en Grèce, par exemple, sur le chemin du studio, il y avait une petite église grecque-orthodoxe. J'allais toujours une heure avant tout le monde, parce qu'il fallait tous les jours que je m'arrête, je rentre, je me mets dans la posture de mon affiche de gamine, et je reste comme ça, 15 minutes, 20 minutes, avec un sourire d'apaisement. Parfois, ici, avec mon ami Jeff, on fait le tour des églises du quartier. J'aime beaucoup sentir les odeurs, mais c'est pas, j'ai pas un rapport religieux avec, j'ai un rapport d'apaisement. J'aime toujours rentrer dans une église, entendre le silence, voir les lumières, sentir les odeurs, c'est toujours beau pour moi.
Je m'appelle Joseph, j'ai 53 ans. Je suis enseignant, j'ai fait des workshops dans des écoles d'art et design en France et à l'étranger. Je suis né aux États-Unis, dans le sud, en Géorgie. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle the Bible Belt, le ceinture de Bible. Parce que notamment, il y a énormément de protestants, surtout le Southern Baptist Convention. Moi, j'ai grandi dans une famille baptiste depuis plusieurs générations. Il faut se rappeler que the Southern Baptist Convention, c'était très conservateur. On ne danse pas, on ne boit pas. Surtout, ils étaient pas très pour la déségrégation dans le sud. En Géorgie, en Alabama, en Mississippi, ils ont créé des communautés qui s'appellent The Citizens Council. Et c'était des communautés de hommes de fer, médecins, enseignants, qui étaient contre l'intégration de Noirs dans des écoles blancs. J'ai grandi, j'étais dans un lycée public, dans le même lycée que ma mère a fait, que mes grands-parents ont fait aussi. Sauf que quand j'étais né en 70, le lycée a commencé d'être déségrégé ou intégré noir et blanc. Et dans mon promo, on était à moitié blanc, à moitié noir. Mais par contre, dans des églises, chacun était chez eux. L'église était très importante par rapport à la communauté, pour instaurer certaines valeurs, mais plutôt qui vient de votre classe économique et votre statut social. C'était une façon de se définir par rapport à l'autre et de rester dans votre communauté. Et la chose qui m'a fait rester dans l'église plus que tout, c'est que j'avais très peur d'accepter que j'étais homosexuel. L'église m'a fourni une sorte de refuge de ne pas aller vers le mal. Parce que dans les religions protestantes, surtout dans les années 80, quand j'étais au lycée, il y avait un néoconservatisme par des années Reagan et Bush père et des années Sida qui a fait peur à tout le monde. Comme je vous ai dit, je grandis baptiste, il y avait des pasteurs comme Jerry Falwell qui disaient que le sida c'était une malédiction donnée par Dieu auprès des homosexuels à cause de leur choix de vivre. En fait, pour moi, ma relation avec Dieu, c'était aussi une relation père-fils. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était là pour me protéger, pour m'encourager, pour me mettre dans le bon chemin, faire de bons choix, instaurer une valeur qui était au-delà de qu'est-ce que c'est ma classe sociale, ma statut dans une communauté qui était hypocrite, aussi raciste. Enfin, à vrai dire, un Dieu comme un père qui me protège, c'est aussi parce que mes parents sont séparés quand j'avais 7-8 ans. Après la guerre de Vietnam, mon père est rentré en Géorgie, après il est devenu sorte d'investigateur pour la police de l'État. Il était toujours absent et ça finalement il nous a laissé, moi, mon frère et ma mère. Et ma mère est tombée dans une dépression très profonde et j'ai décidé de quitter ma mère et mon frère parce que ma mère est sombrée avec mon beau-père qui était alcoolique, très violent. J'ai décidé d'aller vivre chez mes grands-parents, qui étaient baptistes, qui étaient très conservateurs. Je me suis trouvé plus encadré et j'ai resté avec eux jusqu'au lycée. Mais après, le fait d'aimer les hommes a devenu beaucoup plus fort que moi et je me suis dit, mais pourquoi un Dieu qui voulait me protéger autant m'aurait privé d'aimer quoi qu'il soit? Mais d'arriver à ça, il fallait du temps. Finalement, à l'âge de 22 ans, j'ai dit à tous mes amis chrétiens, de toute façon, si Dieu existe, il va m'aimer, même si j'aime les garçons. On dit « love the sinner but hate the sin ». On va aimer le pécheur, mais on n'aime pas le fait que vous êtes en train de pécher. Ça se traduit par une sorte d'exclusion sociale parce que si vous êtes ouvertement homosexuel, ils vont pas vous inviter à des baptêmes ou des anniversaires des enfants. Vous êtes exclu par vos choix. Oui, on vous aime toujours, mais vous ne pouvez pas être avec nous parce que vos choix nous contaminent notre moralité. Et dans ma famille proche, eux aussi, ils ne veulent pas que je suis même en contact avec leurs enfants ou leurs autres membres de famille parce que ça risque de contaminer leur propre idée. Quand j'ai fini le lycée, j'avais tellement peur de devenir homosexuel, j'ai quitté la Géorgie et je suis allé en Alabama, à Birmingham, dans une école baptiste pour éventuellement devenir pasteur ou missionnaire. C'était dans ce contexte-là où je suis vécu pendant plusieurs années. Quand je suis arrivé à l'âge de 21-22 ans, j'étais tellement malheureux, je me sentais toute faux, toute hypocrite à ceux que j'aimais. Quand j'ai commencé de parler à mon entourage, la première chose à faire, c'était d'aller voir un psychiatre chrétien, baptiste, protestant, et de commencer de faire un traitement de ce problème d'homosexualité. J'ai suivi un traitement pendant presque un an et demi avant de réaliser que qu'est-ce que je fais? Il faut quitter l'Alabama, il faut partir. Et c'était dans cette époque que j'ai cherché des programmes pour les écrivains à Los Angeles, à Chicago, à New York. Et par ce billet-là, j'ai été accepté à côté de New York et je suis parti. Premièrement, pour continuer mes études. Deuxièmement, pour explorer une liberté de qu'est-ce que ça veut dire de vivre une vie homosexuelle. Mais je signale aussi que c'était en 92 et 93. Ce n'était pas non plus le temps pour les homosexuels à New York qui était le plus excitant. Parce que il y avait toute une génération qui est déjà disparue ou qui était en train de disparaître. Et moi, j'avais toujours très peur de tout cela. Et ça a vraiment marqué ma vie sexuelle et de trouver un copain ou tomber amoureux. Parce que j'étais dans la mentalité, j'ai envie de tomber amoureux une seule fois et rester avec le même partenaire pour le reste de ma vie. Qui était valeur, qui était instaurée dans le couple hétéronormatif chrétien, protestant. Finalement, c'était très, très, très compliqué. J'étais très en colère. J'avais toujours très peur. Dans cette époque, il n'y avait pas grand monde autour de moi qui puisse me conseiller ou m'aider. C'était presque chacun pour soi. Je me rappelle, j'avais essayé d'aller dans certaines associations comme ACT UP. Et dans cette époque, déjà, des nombres de membres d'associations avaient tellement diminué parce que les gens avaient déjà décidé ou en train de mourir qu'il y avait un sort de, je vais dire, 3 ou 4 ans, un sort de disparition et très peu de gens qui pouvaient partager tout ce souci et je suis parti à jamais. Je suis arrivé en France à l'âge de 24-25 ans. Dans un pays où, si j'ai cherché la solitude, c'était dans les années 90 assez facile parce que je parlais pas du tout un mot de français. Et je veux dire aussi, quand je suis arrivé à Paris, je savais pas que je vais rester si longtemps. Mais en fait, quand je me sentais tellement comme un étranger dans ma propre corps et dans ma propre société, ça veut dire la communauté où j'ai grandi, même après de sortir de placard quand j'avais 22 ans, 23 ans, c'était, on va pas dire rafraîchissant, mais il y avait quelque chose d'être en France, ne pas parler de langue, être pas seulement un étranger, mais aussi un inconnu, où je pouvais me construire différemment. Je pouvais me construire avec une langue qui n'était pas la mienne, avec une culture qui n'était pas la mienne. Et je pouvais revisiter et réfléchir à tout ce que j'ai construit jusqu'à cette époque et tout ce que j'ai voulu construire autant que jeune adulte et ajuster mes valeurs selon des expériences qui vont arriver en France. C'est drôle parce que maintenant, pour 53 ans, je suis sur le troisième chapitre de ma vie. Ma relation avec Dieu, c'est principalement ma relation avec l'autre. Pour moi, c'est l'autre qui imbibe qu'est-ce que c'est la notion de Dieu. Il y a un écrivain que j'adore des États-Unis, elle est de Georgie, elle s'appelle Carson McCullers. Un de ses livres, de mes préférés, s'appelle The Member of the Wedding. En français, il s'appelle Frankie Adams. Et en fait, cette jeune fille se pose des questions. Why am I not a member? Pourquoi je ne suis pas un membre de quelque chose? et pourquoi je suis parti un pas de quelque chose. Moi, pendant des années, je me suis posé cette question. Pourquoi je n'ai parti un pas? Pourquoi je n'arrive pas de me assimiler dans ma propre communauté où j'ai grandi, ou même ailleurs? En fait, aujourd'hui, je sais pas si c'est Dieu ou pas Dieu, c'est pas la question. C'est que aujourd'hui, je ne pose plus cette question. J'appartiens, j'ai contribué, j'ai travaillé, j'ai m'éclate dans mon travail, j'ai éclate dans ma vie quotidienne, je regarde autour et je partage un pays avec, je pense principalement, les gens qui regardent l'avenir avec pas l'incrédulité, mais plutôt l'espérance et la vraie envie d'améliorer ce qui est devant nous.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morn, the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.
C'était Sortir du rang, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Benjamin Hu. Merci à Darina, à Jean-François Le DVA et à Geoffroy Guéna, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Hortense Martin. Peered into the mist, a stone stole from a precipice.
heart.